France Musique. Les grands entretiens, Benjamin François.
Je suis Leonard Slatkin. Je suis né en Los Angeles en 1944 et je suis un chef d'orchestre, compositeur et auteur.
I was high on a rainbow, but now there's no rainbow, you're gone. And so a lover is blue.
À cette époque de votre enfance, Leonard Slatkin, vous n'habitiez pas très très loin de studio où était enregistrée de la musique classique pour la radio de Los Angeles. Et la radio a joué un rôle assez important.
Radio was always and still is.
La radio a toujours été importante pour moi. La radio est encore très importante pour moi. En effet, la radio permet de faire travailler l'imagination. Je me souviens que j'écoutais des fictions radiophoniques. Je n'écoutais pas que de la musique. Et quoi que l'on puisse voir au cinéma ou à la télévision, rien de tout cela ne vaut ce que nous avons dans notre esprit lorsque nous faisons travailler notre imagination. Et il en était à peu près de même pour moi pour la musique.
This is the sound of radio. Modern radio. Formula radio.
Approximately four streets.
À environ quatre pâtés de maison de là où j'habitais, il y avait ce qui était à l'époque la seule station de radio de musique classique de Los Angeles. Je me suis rendu pour la première fois, je devais avoir quoi, 12 ou 13 ans. On m'a laissé entrer et j'ai rencontré les gens qui faisaient les programmes et j'ai eu le droit d'écouter la musique. J'ai même pu aller à la discothèque et choisir des enregistrements pour les écouter. Et à l'époque, on faisait la même chose chez les disquaires. Chez les disquaires, il y avait des petites salles d'écoute. On pouvait écouter les disques avant de les acheter. Donc, une bonne partie de ma culture, je l'ai construite à la radio et en écoutant autant d'enregistrements que possible. Il y avait un autre programme sur une autre station. Ce n'était pas de la musique classique et ça a commencé à minuit. Et moi, j'allais à la station de radio, j'étais un peu plus âgé, et de minuit à 6 heures du matin, je regardais le présentateur faire son émission. Il mettait les vinyles sur les platines, il tournait les boutons, il avançait les curseurs, et j'étais fasciné par le travail du présentateur de radio. Je n'ai jamais pensé que je ferais ça. Mais au bout du compte, si, plus tard, j'ai fait ce métier. Mais cette première expérience qui a consisté à me nourrir vient d'une part de ce que je vivais à la maison, mais aussi de la possibilité de m'immerger dans la radio.
Leonard Slatkin, vous avez eu aussi des expériences importantes en tant qu'auditeur de concerts, puisque en habitant Los Angeles, invariablement, vous alliez rencontrer le Los Angeles Philharmonic, et vous avez entendu à cette époque des artistes extraordinaires. Alors, j'imagine Heifetz, Ormandy, Rubinstein, John Barbirolli, peut-être aussi Fritz Reiner.
Très intéressant, l'orchestre philharmonique de Los Angeles. La première fois que je l'ai entendu, je devais être jeune adulte, l'orchestre n'était pas si bon. En tout cas, il était moins bon que les orchestres de musique de film. Mais l'orchestre est devenu bon lorsque sont arrivés des chefs d'orchestre invités. Ces chefs d'orchestre leur ont montré comment il fallait jouer. Quand on allait à un concert dirigé par Rainer Ormandy ou d'autres, tout à coup, l'orchestre philharmonique de Los Angeles était transformé. Et là, le son ressemblait diablement à celui d'un très bon orchestre. Pas un orchestre formidable, mais bien, bien meilleur, sous la baguette de ces chefs-là. Il y a eu Zubin Mehta qui est arrivé et qui a établi une relation à long terme avec cet orchestre. Mais pour moi, j'écoutais le répertoire et je regardais les grands chefs d'orchestre travailler et j'écoutais de formidables solistes.
Heifetz,
par exemple, le concert, quand il a joué le concerto de Tchaïkovski, il s'est perdu, il a eu un trou de mémoire, il a quitté la scène, mais j'en ai entendu d'autres, Rubinstein, et d'autres, tous les grands artistes qui ont joué à Los Angeles, je les ai vus et entendus, c'était remarquable.
Il faut qu'on parle du jazz, Leonard Zlatkin. Ça joue un rôle important. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, à Los Angeles, il n'y a pas vraiment de barrière entre le répertoire classique et le jazz. Et vous avez été socialisé en jazz comme vous avez été socialisé en classique, j'ai l'impression.
Jazz came into my life very, very
j'ai appris
early.
À connaître le jazz
Again,
très, très tôt,
more to the life
vraisemblablement
in the studios of recording.
Parce que je traînais dans les studios d'enregistrement.
People who were freelancing, playing
il y avait
sessions
beaucoup
for
de musiciens indépendants Sinatra, qui jouaient pour Sinatra, Nat King Cole, Doris Day,
so many others were
et
also
bien d'autres. C'était de formidables musiciens de jazz, mais ils jouaient du classique aussi.
I used to go to a club.
Moi, j'allais dans une boîte de jazz à Los Angeles qui s'appelait le Manhole.
This was run by a great drummer named Shelly Mann.
Charlie Mann, formidable batteur, en était le patron. Et tous les grands musiciens de jazz y venaient. Donc, lorsque les autres boîtes fermaient vers 1h du matin, tous les musiciens allaient au Manhole et entre 1h du matin et généralement 5 ou 6h du matin, c'était comme la musique de chambre du jazz, si vous voulez. Des musiciens qui jouaient les uns pour les autres. Donc j'ai entendu Dave Brubeck en duo avec Miles Davis. Ça ne fonctionnait pas très bien, mais c'était intéressant. Moi, je jouais du jazz,
a hobby for fun,
mais comme ça, pour m'amuser.
And I became very good friends with also the now late André Previn.
Je me suis lié d'amitié avec André Previn, par exemple. André Previn qui savait faire n'importe quoi. C'était étonnant. Mais le fait de pouvoir écouter tous ces musiciens, c'était formidable. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il y avait différents styles de jazz. Il y avait notamment une grande différence entre le jazz de la côte est, qui était du hard bop, par exemple, et puis le jazz de la côte ouest, qui était plus détendu, un petit peu plus libre, si vous voulez. Mais nous étions également influencés par le jazz latin sur la côte ouest, mais c'était différent. À New York, c'était du jazz plutôt portoricain. Sur la côte ouest, c'était l'émergence de la musique brésilienne dans le jazz. Donc tous ces styles, tous ces sons, je les adorais. Et comme d'autres musiciens qui avaient un bagage classique et un bagage de musique improvisée, on pouvait tout mélanger pour la musique baroque. Il y a une ligne de basse, une mélodie, et tout le reste, eh bien, il suffit de l'inventer. On pouvait improviser les cadences, par exemple. Mais il fallait être vraiment bon pour y parvenir. Et il y avait certaines règles auxquelles il fallait se tenir en matière d'improvisation. Règles qui tiennent encore aujourd'hui, je crois. Lorsqu'on commence, il faut y aller doucement. Puis on arrive à l'apogée. Et puis, on cède la parole à un autre soliste ou à l'ensemble. Mais le jazz, c'était important pour moi. Charlie Mann avait l'habitude de dire une chose très importante. Et moi, je crois que c'est très drôle. Personne ne comprend ce que ça veut dire, mais d'une certaine façon, c'est assez logique. Il disait, dans le jazz, on ne joue jamais rien de la même façon dès la première fois. Vous voyez, dès la première fois. Lui, il disait, dès la première fois. Autrement dit, on ne sait pas très bien ce qui va venir.
Les grands entretiens de Leonard Slatkin, France Musique.
Il y a un moment, Leonard Slatkin, où votre vie va basculer, c'est ce que vous appelez the turning point, où votre papa, 47 ans, meurt. Cela va entraîner des conséquences pour votre vie.
I had been at Indiana University for a total of 3 months.
J'ai passé 3 mois à l'université de l'Indiana en 1962. Ils m'ont viré. Je ne voulais pas aller aux études militaires dans le cadre des études de musique. Bref, me voici de retour à Los Angeles. Je ne savais pas trop quoi faire. À ce moment-là, au mois de mars 1963, mon père est décédé de manière très soudaine. Mais il était alcoolique. Il fumait 3 paquets de cigarettes par jour. Et en plus de ça, il était accro au boulot. Il n'arrêtait pas de travailler. Notre famille n'était pas particulièrement soudée parce que mes parents étaient souvent absents. Mais néanmoins, son décès a eu un fort retentissement sur moi. Et pendant pratiquement 18 mois, je me suis dit que je n'allais plus faire de musique. Je suis allé dans une fac publique. C'est là que vont les étudiants qui ne savent pas quoi faire. Et je me suis dit que j'allais devenir prof d'anglais. J'adorais la littérature. J'adorais écrire. Et petit à petit, certains de mes amis m'ont encouragé à me remettre à la musique. Mais ce n'était pas si facile. J'avais abandonné le violon parce que je ne pouvais pas être aussi bon que mon père, et puis il y a bien d'autres choses que je ne pouvais pas faire parce que je n'allais pas être à la hauteur de certains membres de ma famille. Mais mon père était également chef d'orchestre. Il était excellent. Il a travaillé dans le domaine de la musique classique, il a fait de la musique populaire, il était chef d'orchestre pour plusieurs albums de Sinatra, il a enregistré beaucoup d'albums pour le Hollywood Bowl et différents orchestres. Mais, et ça peut sembler dur, mais ça ne l'est pas. Une fois qu'il avait disparu, je n'étais plus en concurrence avec mon père. Et je savais qu'avec mon expérience dans l'orchestre des jeunes de Californie, que je voulais être chef d'orchestre. Donc, je me suis relancé. J'ai fait des études à l'école d'Aspen avec Walter Suskind, j'ai passé une audition et puis je suis rentré à l'école Juilliard avec Jean Morel dans la classe de composition. Cela peut sembler triste, mais je ne suis pas sûr que je serais chef d'orchestre aujourd'hui si mon père n'était pas mort de façon si soudaine. Mais ainsi va la vie, il fallait que je poursuive mon chemin.
Leonard Zlatkin, quel rôle jouent vos attaches avec la religion hébraïque ? On a essayé de vous emmener, quand vous étiez tout petit, au Hebrew Kindergarten, à la maternelle hébraïque. Vous n'aimiez pas trop, vous avez refusé de faire votre bar mitzvah, et vous n'avez pas suivi très longtemps d'école dans la religion juive. Mais quel rôle, maintenant, peut-être, jouent ces attaches avec cette religion ?
These days, it's easy for me to say that essentially, my faith.
Désormais, je peux dire que
really
ma foi
embedded in the music. Why
est intégrée dans la musique. Pourquoi
Because
est-ce que je dis cela?
For the most part,
parce que
I'm performing works by
je joue
creators who are no longer here.
De la musique de compositeurs qui ne sont plus des nôtres.
Over the centuries,
ils me parlent au-delà des siècles par le truchement de leur musique.
I believe what they have to say
et
to me
je crois ce qu'ils me disent. Ce qu'ils me disent, c'est aussi puissant que toute autre chose. Quand j'étais jeune, nous savions que nous avions des origines juives, on n'en parlait pas beaucoup à la maison. Et mes parents m'ont demandé si je voulais à l'école hébraïque, si je voulais faire ma bar mitzvah. J'ai dit non immédiatement parce qu'il fallait que je travaille la musique, il fallait que je joue avec mes amis.
Et en vieillissant, some of the ideas
j'ai commencé à
in theology, and not
mieux comprendre et à adopter les
Judaica.
Idées de la théologie, et pas simplement
I
de la judaïté. Je choisis
from
à ma guise certains aspects par-ci, par-là. C'est assez raisonné comme démarche, vraisemblablement parce que récemment, dans le cadre de l'anniversaire pour Bernstein, j'ai travaillé sur la troisième symphonie, Kaddish. Le Kaddish, c'est ce que l'on récite lorsqu'un membre de la famille disparaît. C'est ce que j'ai récité lorsque mon père est décédé.
Et
au milieu de la cérémonie religieuse, le rabbin m'a demandé si je comprenais ce que je disais en hébreu. Le rabbin parlait, et moi, je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Et il y avait 1500 personnes qui participaient à la cérémonie. Il y avait Frank Sinatra, donc devant tout le monde, le rabbin m'a expliqué de quoi il s'agissait. Et dans cette prière Kaddish, le mot « mort » n'est jamais cité, mais le mot « vie » l'est. Et moi, qui essaye, quand je suis face à l'orchestre, de penser aux intentions du compositeur pour exprimer les choses pour les générations de maintenant. C'est ça, ma foi. C'est quelque chose qui se transmet, quelque chose qui progresse au fil des années. Mais cette œuvre Kaddish de Bernstein pose des questions. Pourquoi Dieu permet-il certains événements dans le monde? En France, il est légitime de se demander pourquoi il y a une telle violence, sans parler des États-Unis, où il y a à nouveau du racisme. Pourquoi y a-t-il tant de guerres, de batailles qu'il faut livrer comme dans les années 60? À mes yeux, la religion n'était pas très importante quand j'étais jeune, mais désormais elle l'est un petit peu plus. Mais cela dit, je ne participe à aucune bar mitzvah et je ne pratique pas la religion de façon très scrupuleuse.
Yeah.
un extrait de la troisième symphonie Kaddish de Leonard Bernstein par le chœur symphonique, l'orchestre symphonique de la BBC et Leonard Zlatkin à la direction. Demain, dans le troisième épisode de cette série, qui se réécoute et se podcast sur francemusique.fr, nous suivrons Leonard Zlatkin au Curtis Institute de Philadelphie. Il nous parlera de son professeur de direction d'orchestre, le français Jean Morel, et nous le verrons devenir assistant de Walter Suskind à l'Orchestre Symphonique de Saint-Louis. Merci à Pierrick Charles, Olivier Dupré, Flora Sanadel, Xavier Combe à la traduction, Gilles Blanchard et Perrine Mingui à la réalisation. Et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ces grands entretiens.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.